France Inter.
Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Madame de Montespan, heures et malheurs d'une favorite de Louis XIV. En 1667, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemar, marquise de Montespan, âgée de 27 ans, devenait la maîtresse de Louis XIV. À la plus surprenante beauté, elle joignait l'esprit le plus vif, le plus fin, le mieux cultivé, cet esprit héréditaire dans sa famille, écrivait sa contemporaine Madame de Sévigné. Face au désir impétueux du roi Soleil, l'époux de la marquise, fou de jalousie, avait d'abord bataillé avant de guerre lasse de rendre les armes. « Sire, si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerais vengeance, mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance, comme le dit la chanson. » Mais Madame de Montespan, issue pourtant d'une des plus illustres noblesses de France, plus ancienne que celle des Bourbons, comme elle aimait le rappeler au roi dans des moments de rage, devra se battre comme une lionne pendant des années, au prix de dangereuses compromissions, pour acquérir le titre convoité de favorite du roi, avant à son tour de le perdre.
France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire.
Flavie Leroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, chercheuse au Centre de recherche du Château de Versailles, spécialiste de l'histoire de la cour et des femmes en France au XVIe et XVIIe siècle. Alors la question des favorites de Louis XIV a longtemps été réduite à un sujet un peu coquin, affriolant, donc pas vraiment un sujet sérieux d'histoire. Depuis quand les historiens et les historiennes s'y intéressent et pourquoi ? C'est un vrai sujet ?
Alors finalement, les historiens et les historiennes s'y intéressent depuis très peu de temps. On pourrait dire à peu près depuis les années 2000, en
fait.
Ah
oui, c'est très récent.
Donc c'est vraiment très récent. Il y a eu un ouvrage en 1990 de Guy Chaussinan-Nogaret, mais après celui-ci, plus rien pendant presque 10 ans. Effectivement, on considérait les maîtresses et favorites comme un sujet futile, voire indigne quasiment, oui, de la science historique, alors qu'elles occupent une place centrale dans la société de cour et dans la société qui est la leur, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne aujourd'hui, le XVIIe siècle.
Elles ont parfois joué même un rôle politique dans certains cas.
Alors effectivement, on leur attribue certaines décisions prises par le roi. Et on a toujours un doute, bien sûr, puisque dès lors qu'on a l'oreille du roi, on peut lui souffler des idées. Ça n'est pas exclu. De là à arriver à le prouver, c'est tout autre chose, bien évidemment. Mais on peut le faire grâce à certaines sources rares, mais qui existent, notamment la correspondance de Madame de Maintenon, dont on parlera peut-être un peu plus tard, et qui, dans ses lettres, nous montre tout le pouvoir qu'elle exerce, notamment dans la guerre de succession d'Espagne.
Depuis quand les rois en France ont des maîtresses officielles ? Est-ce que ça a toujours existé ?
Alors non, ça n'a pas toujours existé. Au Moyen-Âge, les rois avaient recours au service de prostituées, généralement, et avaient des relations sexuelles dont la majorité des courtisans n'avaient pas forcément connaissance. Et en fait, c'est surtout avec Charles VII et Agnès Sorel que le statut, si l'on peut dire, de maîtresse va s'imposer, c'est-à-dire celui d'une femme que le roi choisit parmi sa noblesse, parmi son entourage, et qu'il va imposer aux yeux du public comme étant sa maîtresse, et donc avec laquelle il entretient une relation amoureuse en dehors des liens du mariage.
Notre fiction ce soir commence en 1668, en septembre même 1668. Qui est à ce moment-là Madame de Montespan ?
Alors, Madame de Montespan, cette année-là, elle est la maîtresse du roi depuis un peu plus d'un an, depuis l'été 1667. Mais avant cela, c'est une femme qui est déjà active à la cour de France. Elle occupe depuis 4 ans une charge au service de la reine Marie-Thérèse. Donc, elle appartient à son entourage très proche. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'elle est la favorite de la reine Marie-Thérèse au début. Et donc, c'est une femme qui est à la cour, qui est mariée, qui a 2 enfants avec son mari et qui appartient à une très grande famille de la noblesse française, les Rochechouart de Mortemar, dont les parents, en fait, sont eux aussi présents à la cour, donc une famille extrêmement bien installée dans l'entourage royal.
Et donc, en 1666, elle rencontre pour la première fois le roi, enfin, c'est une rencontre, et elle devient sa maîtresse l'année suivante, donc en 1667.
Oui, à l'occasion d'une campagne militaire. À cette époque-là, Louis XIV est un roi jeune, vigoureux, qui va à la guerre, à la tête des troupes, et qui emmène avec lui la cour de temps à autre. Et c'est le cas cette année-là en Flandre, à l'été 67. Et donc Madame de Montespan, dans le cadre de sa charge, accompagne la reine Marie-Thérèse. Et donc ce serait lors de cette campagne, selon la grande mademoiselle, que le roi et Madame de Montespan commencent à se fréquenter dans l'intimité.
Et Louis XIV, donc, à cette époque, c'est encore donc, vous l'avez dit, le jeune roi fringant. Bon, on n'est pas encore à Versailles, la cour ne s'y installe que bien plus tard, mais c'est déjà un jeune roi très impétueux qui veut multiplier les maîtresses. Enfin, il a déjà eu des maîtresses avant, enfin, c'est pas Montespan la première, j'imagine.
Absolument pas. Louis XIV est un roi extrêmement actif à tous les niveaux, on pourrait dire, militaire en l'occurrence lors de cette campagne, mais aussi au niveau amoureux. C'est un roi qui, à ce moment-là, à la fin des années 60, a déjà eu plusieurs maîtresses. Il y a la très connue Marie Mancini d'abord, donc un amour malheureux, un échec, qui a été rapidement suivi, entre autres, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a plusieurs,
mais voilà,
par la fameuse Louise de la Vallière, qui elle est quand même restée dans les faveurs de Louis XIV pendant plus de 10 ans, et qui, donc au moment où Madame de Montespan et Louis XIV entament leur relation, est la maîtresse de Louis XIV. Donc on a là une situation assez compliquée entre un Louis XIV marié, qui a une maîtresse célibataire, Louise de la Vallière, et qui engage une relation avec une femme, elle aussi mariée, Madame de Montespan.
Oui, ça va être une situation très très compliquée dans toute cette histoire. Flavie Leroux, on poursuit cette discussion passionnante dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Madame de Montespan, heures et malheurs d'une favorite de Louis XIV, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton.
Au bout du couloir, la porte dérobée. Vite. Oh, je ne devrais pas courir à perdre haleine, enceinte comme je suis. Là, mon mari ne me trouvera pas. Heureusement que la grande mademoiselle m'a prévenu qu'il était à Paris. Il était en furie, paraît-il, vomissant des insultes contre le roi. Ah, comme j'étais gênée devant elle. Mais j'étais loin de penser qu'il oserait se présenter à la cour et raconter ses histoires. Quelle honte de voir ce perroquet amuser les courtisans. Et eux qui en font des gorges chaudes. Ah, qu'il est drôle, le marquis de Montespan, le mari de la maîtresse du roi. Je me cache dans ce salon jusqu'à ce qu'il s'en aille.
20 septembre 1668, au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Athénaïs de Montespan, l'épouse du marquis de Montespan, avec lequel elle a 2 enfants, est aussi depuis 18 mois la maîtresse de Louis XIV. Pendant la guerre avec l'Espagne, Louis XIV avait éloigné de la cour le marquis, en le chargeant de surveiller la frontière des Pyrénées, et en avait profité pour faire d'Athénaïs sa maîtresse. Mais la guerre maintenant est terminée, et le marquis de Montespan, qui est de retour, vient manu militari chercher sa femme, qu'il finit par découvrir dans sa cachette.
Athénaïs, vous me fuyez ? Ah, je vois que ce qu'on m'a dit est vrai. Vous êtes enceinte du roi ? Je n'aurais pas dû vous laisser seule à la cour.
Mais vous m'y avez laissé.
Le roi m'a envoyé au diable, pendant qu'il vous promenait dans les Flandres. J'ai une folle confiance en lui.
Une folle confiance, vraiment? Osez me dire que vous ne pensiez pas tirer quelques privilèges de l'attention que le roi me porte.
Mais non, voyons Athénaïs. Même si c'est vrai.
Le roi, je vous le rappelle, vous a mis à la tête d'une compagnie de cavalerie. Eh bien, considérez que vous avez donné au roi un consentement intéressé. Partez maintenant.
Non, je vais rester. Et faire un de ces tapages, tiens! Je ferai poser sur mon carrosse des cornes gigantesques!
Vous perdez la tête!
Ainsi on saura partout que le roi m'a pris ma femme!
Non! Vous allez gentiment quitter la cour et vous féliciter de votre bonne fortune!
Ah, vous êtes trop fine pour moi. Jamais je n'aurais dû vous épouser. Face à l'illustre lignage des Rochechouart de Mortemart, je ne fais pas le poids.
Retournez dans vos terres de Gascogne et dites-vous la phrase de Molière. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore.
Je vous ferai des procès. Je vous ruinerai. Et cet enfant que vous attendez du roi, il est à moi, Athénaïs. Ne l'oubliez pas, vous êtes ma femme. C'est pour cela qu'il ne fera jamais de vous sa favorite. Jamais.
Athénaïs accouche d'une petite fille. Le roi charge alors Françoise Caron de la cacher chez une nourrice à Paris. Amie et confidente d'Athénaïs, Françoise est veuve du célèbre poète Scarron, qu'elle avait épousé sans dot à 16 ans. Madame de Montespan l'a rencontrée dans un salon littéraire où se réunissent les précieuses. C'est là que la marquise a pris le prénom d'Athénaïs, très en vogue dans ce milieu. 6 mois après son accouchement, elle est de nouveau enceinte. Et la nuit du 31 mars 1670, dans une pièce retirée du château royal de Saint-Germain-en-Laye, en grand secret, elle donne naissance à un fils, Auguste. Cette fois encore, Françoise Caron prépare le nouveau-né pour l'emporter secrètement à Paris.
Tout dort au château. J'ai eu si mal, si peur que l'enfant m'arrache les entrailles, mais merci mon Dieu. Nous sommes vivants, lui et moi. J'ai froid. Oh, la dentelle de mes manchettes est toute déchirée. Je l'ai tellement mordue pour ne pas crier.
Athénaïs, l'enfant est prêt. Je dois partir vite tant qu'il fait encore nuit.
Françoise, il a un pied tordu, non?
Oui, un pied beau. Ne t'inquiète pas, je vais bien le soigner. J'y vais.
Et la nourrice, à Paris, elle est douce?
Très douce. Elle ne fait rien de la journée de peur que son lait soit moins bon. Hier, je lui ai apporté en cachette du linge propre et de la viande, avant de filer au salon littéraire du maréchal d'Albret.
Personne là-bas ne soupçonne notre secret.
Oh non, ils sont trop occupés. Molière travaille avec Lully à une commande du roi. Le bourgeois gentilhomme.
Oh, qu'il me manque, tous ces artistes, Françoise. Les courtisans ici sont sots comme des paniers. Allez, pars. Tu le couvres bien. Hein. Qui est-ce qui crie, Françoise? Le fantôme d'Anne d'Autriche? Tu sais que le roi est né dans ce château?
Ce n'est pas un fantôme, c'est Louise de la Vallière. Elle est enceinte, elle souffre le martyr.
Enceinte? De qui? Tu ne dis rien. Du roi. Il me trahit donc avec elle. Et tout le monde le savait, sauf moi.
J'avais promis au roi de ne te le dire qu'après ton accouchement. Patience, mon ami. Tu seras bientôt la favorite. L'autre jour, la Vallière s'est plainte au roi d'être délaissée. Alors, il lui a jeté dans les bras son petit épagneul en disant « Tenez, madame, voilà votre compagnie.
On vient. Adieu. Va vite. »
C'est vous, Louis?
Ah, mais c'est ta chère Françoise qui s'enfuit. Un trop bel esprit, je m'en méfie. Alors, dis-moi, comment est le petit?
Beau et robuste. Aide-moi, allons à la fenêtre. Tu la vois? C'est Françoise qui court comme un lapin dans le parc. Quand je pense qu'elle cache mon petit sous son manteau.
Un carrosse l'attend à la grille, c'est prévu. Espérons que personne ne l'a vu.
C'est Louise. Elle souffre. On me dit qu'elle est enceinte de toi.
Ma chère Athénaïs, je dois continuer à la voir pour ne pas éveiller les soupçons. Pour nous.
Mais pourquoi ne pas reconnaître que je suis ta favorite?
Je dois retourner dans le lit de la reine à présent.
Françoise emmène le nouveau-né à Paris chez la nourrice qui, depuis 2 ans déjà, prend soin de la première fille du roi et d'Athénaïs. Ses enfants sont un secret d'État. Le lendemain, 1er avril, débute la Semaine Sainte et les célébrations de Pâques. Louis XIV reçoit la communion solennelle. Athénaïs est à sa place, aux côtés de la reine, sans rien laisser paraître. Louise de la Vallière a eu 5 enfants de Louis XIV. Officiellement, elle reste la favorite. Mais afin de signifier sa préférence, le roi a mis Louise au service d'Athénaïs. Ce 15 décembre 1670, Athénaïs attend qu'elle vienne la coiffer avant le dîner.
Qu'attend-il pour la chasser? Louis sait dans son cœur que je ne suis pas la femme d'un soir comme ces chevaux de poste que l'on ne monte qu'une fois. Et s'il est vrai que je suis maîtresse de ses sens, mon esprit le séduit plus encore. Alors pourquoi Louise a-t-elle toujours le titre de favorite? Il a des scrupules. Peut-être il l'aime encore. Il faudrait qu'elle parte d'elle-même.
Ah, Louise, je veux que ces boucles sur mes tempes soient coiffées de manière à retomber joliment sur mes joues. Vraiment, je ne suis contente de ma coiffure que si c'est vous qui y mettez la dernière main.
Vous n'avez pas de servante plus acquise que moi.
Et votre petit chien, comment va-t-il? Il est de très bonne compagnie.
Nul ne peut m'accompagner dans mon enfer. Je vois chaque jour le roi vous aimer quand je suis la cible de sa méchanceté.
Ah, vous n'allez pas vous évanouir. Là, je vous tiens. Mais que portez-vous sous vos vêtements? Un cilice? Vous faites pénitence?
Le cilice ne mortifie que ma chair. Il n'atteint pas mon âme. C'est elle qui a péché le plus. J'expie le remords et surtout le lâche désir d'aimer encore.
Louise, il faut vous dégoûter de cet amour. Montez sur le champ en carrosse et sauvez-vous.
Le roi me l'interdit. Même si depuis que j'ai perdu mon enfant l'été dernier, je suis si faible que paraître à la cour est un supplice.
Mais il vient de vous acheter un château en Touraine.
Oh, juste en reconnaissance de mes services. Ce que fait le maître quand il donne congé à une domestique, n'est-ce pas? Voulez-vous des rubans?
Oui, un ruban noir sur le front. Cela rehausse le blond de mes cheveux. Vous devriez insister auprès de lui pour vous retirer.
Il ne le veut pas, vous dis-je. Je ne peux que prier Dieu comme une pauvre créature qui rampe sur le chemin de la vertu. Dois-je poser un bijou sur la natte?
Des perles, peut-être? Oh, et puis non, ça ira. Dites, je n'ai pas trop pris pour quelqu'un qui est enceinte, non? Louise, je...
Le roi, qui commet donc un double adultère, retient Louise de la Vallière à la cour afin de cacher à la reine sa liaison avec Athénaïs, une femme mariée. Le 6 avril 1672, il déclare la guerre à la Hollande. Louis XIV part alors en campagne et le 20 juin fond sur la ville d'Utrecht. Le même jour, à 30 km de Paris, au château du Génitois, Athénaïs accouche en toute discrétion du petit Louis César. Françoise l'accompagne et soigne l'enfant né bossu. Le 24 juillet, comme tous les après-midi, Athénaïs monte dans le pigeonnier.
Je suis toujours la favorite officieuse. J'attends ici qu'il revienne de la guerre, mais s'il s'était lassé de moi. De la guerre, en tout cas, il ne se lasse pas. À Saint-Germain, je le vois chaque jour inspecter ses escadrons avec tant de plaisir, un homme après l'autre, un cheval après l'autre. Ah, comme la campagne est belle! Elle me rappelle mon enfance, à Lussac. Ma famille me manque. Mais je suis brouillée avec mon frère car il aimait bien mon mari et ma sœur Marie-Madeleine a pris le voile. Je me sens si seule.
Ces escaliers en colimaçon, j'étais sûre de se trouver ici.
Je pensais à ma famille. Tu ne parles jamais de la tienne, Françoise?
Oh. Mon père passait son temps en prison pour dette. Un jour, il a décidé d'aller chercher fortune aux Antilles.
Dans les Caraïbes, avec toute sa famille?
Oui, ça a été un fiasco. On est revenu en France, j'avais 10 ans. Je mendiais aux portes des couvents. Ah, si quelque chose me console de ma famille, c'est bien ton amitié, Athénaïs. Et ton mari, qu'est-il devenu?
Je ne sais. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a giflé en jurant de m'enlever mes enfants. Il est juridiquement leur père, même ceux de Louis.
Tiens, un cavalier passe le porche. Que se passerait-il si le roi mourait à la guerre?
Je n'endors pas, Françoise. Femme adultère, mon mari pourrait demander ma mort au tribunal.
On m'a dit que je vous trouverais dans le pigeonnier.
Louis!
Majesté, je vous laisse.
Il me tardait de te voir, Athénaïs. Et le petit?
Il me fait du souci. Je crains qu'il ne survive. Mais ce n'est pas l'heure d'être triste. Tu es de retour et victorieux.
Oui, ma chère. J'ai fait plier cette nation altière et ingrate. Et je n'ose te dire comme nous avons terrifié les Hollandais. Avec nos pillages, les villages incendiés...
Toutes ces villes qui ont capitulé devant toi. Si je demandais à Jean Racine de faire un livre de ses grandes actions militaires, c'est un bon historiographe.
Excellente idée. Ce livre fera l'étonnement de l'univers. On y verra que je n'ai assiégé aucune place que je n'ai prise.
Mais Louis, s'il t'arrivait quelque chose. François Ier est parti en guerre et il a été capturé, c'est bien imprudent.
C'est cette imprudence qui l'a mis au rang des grands rois. J'aurais tellement aimé que tu viennes sur le front, comme il y a 5 ans, tu te souviens?
Je ne t'avais jamais vu aussi beau. Et on est devenus amants. Oh Louis, je suis fatiguée du secret.
Athénaïs, je reviens vainqueur.
C'est le bon moment, je crois, pour te déclarer publiquement ma favorite.
Vraiment ? Tu le promets ? Oh, tes lèvres sont toutes couvertes de poussière.
Septembre 1672. De nouveau, Françoise emmène le nourrisson à Paris et l'installe avec son frère Auguste, âgé de 2 ans, chez la nourrice. La petite Louise, elle, est décédée. Athénaïs, qui n'est toujours pas favorite, malgré les promesses du roi, retourne à Saint-Germain-en-Laye, où la reine a accouché en juin d'un garçon, une semaine seulement avant elle. Au printemps 1673, débute la campagne de Flandre. Louis XIV décide que la cour le rejoindra au siège de Maastricht. La reine voyage avec Louise de la Vallière, toujours favorite officielle. Athénaïs, de nouveau enceinte, suit en arrière-garde dans son propre équipage. Le 31 mai 1673, le convoi progresse dans les forêts de Lescaut sous une pluie diluvienne.
Molière est mort.
Molière ?
L'interdiction du Tartuffe lui avait porté un rude coup. Mais le roi a fort bien fait. Pour l'avoir écrit, à coup sûr, Molière est maintenant en enfer.
La pauvre Françoise, Dieu y regardera à 2 fois avant de le damner. Ce bon Molière, il disait, qui se donne à la cour se dérobe à son art. Je dirais se dérobe à sa vie.
Arrête de te plaindre et souffre ce que Dieu t'envoie. La condition des grands a aussi ses peines.
Sommes-nous loin de Tournai ? Regarde à la portière.
Ah, je ne vois rien avec cette pluie. Ah, si, un cavalier. Il a l'air furieux. Oh ! Son cheval, il l'a balancé dans le bourbier. Comme c'est drôle. Je le raconterai au roi ce soir, il en rira fort.
Pour rire, Louis ne s'en prive pas.
Tu es de bien mauvaise humeur ces temps-ci. Le roi en souffre, il me l'a dit.
De mauvaise humeur ? Je suis enceinte et me voilà à courir les routes.
Que veux-tu ? Les hommes sont tyranniques par nature. Ils veulent des plaisirs et que les femmes s'y soumettent.
Tu ne crois pas qu'un amour sincère devrait laisser la femme maîtresse d'elle-même ? Ah ! Françoise ? L'enfant ? Ah ! Il vient !
Cette nuit du 1er juin 1673, dans la citadelle militaire de Tournai, Athénaïs accouche d'une petite fille, Louise Françoise. Sans tarder, selon le même manège, Françoise Caron l'emporte secrètement à Paris. Le 29 juin, la ville de Maastricht est prise. Athénaïs retourne à Saint-Germain, où elle partage avec Louise de la Vallière le 2e étage du château. Louis XIV a fait aménager à l'identique les terrasses de leurs appartements. C'est là que ce 15 juillet, Athénaïs s'apprête à recevoir Louise.
Cette pauvre Louise, avec ses joues creuses. C'était mon amie. On était de tous les festins et feux d'artifice. On dansait à s'en étourdir. Et aujourd'hui, elle est là, humiliée et patiente. Louis veut que je lui demande d'être la marraine de notre dernière née, Louise Françoise. Un dernier sacrifice avant de lui rendre sa liberté, et je serai la favorite en titre. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il m'a si souvent fait des promesses.
Louise, mais vous êtes radieuse.
Madame, j'écouterai ce que vous avez à me dire, mais avant tout, sachez que je vais quitter la cour. J'ai cessé de plaire. Je ne peux importuner le maître plus longtemps.
J'en suis bien aise. Votre cœur a enfin surmonté ses répugnances et vous allez vous marier ?
Non. Je vous en prie, écoutez-moi. J'ai été très malade. Vous savez, j'ai vu la mort.
Ah, c'était si grave ?
Oui. Et Dieu m'a rendu la santé. Il a conservé mon âme, bien qu'elle soit toute couverte de crimes. Il a sauvé cette vie de scandale où je n'ai fait que l'offenser. Ah, je suis tellement honteuse d'avoir été maîtresse, d'avoir été mère.
Je suis maîtresse et mère. Vous m'outragez.
Loin de moi l'idée de vous blesser, madame. Non. Il s'agit du salut de mon âme. Je me retire au couvent.
Au couvent ? Mais... Êtes-vous sûre de votre vocation ? Vous voilà, toute vêtue de soie, pensez que vous serez couverte de bure. À quel couvent vous destinez-vous ?
Au couvent des Carmélites du Faubourg Saint-Jacques.
Le Carmel ? Sa règle est des plus strictes, que dis-je ? Ce ne sont que privations et souffrances. Quittez la cour pour le Carmel, vraiment.
Oui. Et croyez-moi, j'en sors délivrée de l'esclavage du péché. Dans la paix du cloître, le roi des rois me rendra l'innocence et le silence me fera connaître la joie du retour à la vie.
Louise, allons, que de précipitation. Moi, j'ai peur qu'on dise que j'ai commandé votre entrée au couvent. On y verra une impitoyable sanction. Non, je m'y oppose.
Oh, madame,
je ferai des excuses publiques à la reine Marie-Thérèse. Toute l'attention sera sur elle et non sur vous. Je me débats dans les ténèbres. Aidez-moi, madame, à convaincre le roi de me laisser partir.
Non, je ne le ferai pas. Votre sort m'attriste.
Craignez d'être bientôt attristé par le vôtre. Tout se détruit, tout passe. Et le cœur le plus tendre ne peut d'un même objet se contenter toujours.
Un soir d'octobre 1673, Athénaïs se rend à Paris pour avoir une conversation avec son mari, le marquis de Montespan, dans son hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Quelques mois auparavant, le roi avait envoyé le marquis à l'autre bout du pays pour une fois encore l'éloigner de la cour. Mais le roi ne s'est pas contenté de cela. Il a aussi proposé au marquis de le faire duc, le plus haut titre de noblesse.
Le valet dit qu'il ne va pas tarder. Ah, cette maison où nous avons vécu. Toutes ces soirées passées là à nous quereller. Montespan voulait équiper une armée pour partir à la guerre. Une fois dépensé les 150 000 livres de ma dot, il s'est endetté, empruntant aux uns pour rembourser les autres. Jusqu'à me forcer à mettre mes bijoux en gage. Quelle indignité! Par bonheur, à présent, nos destins sont séparés pour toujours.
Infâme.
Eh oui.
Que faites-vous ici? Vous venez me demander d'accepter le titre de duc, c'est cela?
Le roi a décidé de légitimer les enfants que j'ai de lui.
Comment diable va-t-il faire? Nous sommes mariés, que je sache.
Ils ont trouvé une formule pour la rédaction de l'acte. Le nom de la mère ne sera pas mentionné.
Sans le nom de la mère? La manœuvre est à droite. Je ne pourrai plus vous les prendre. Vous êtes heureuse alors?
Je le suis. Ah, avant de m'en aller, une dernière chose. J'ai fait une demande de séparation nous concernant.
Et je présume le président, alléché par les récompenses royales, accepte de casser notre mariage avec toute l'apparence de la justice. Ah, bon sang.
C'est que, contrairement à ce que vous espériez, je suis aujourd'hui officiellement la favorite de Louis XIV. Vous ne pouvez plus rien contre moi. Bonsoir.
Je vous aime, Athénaïs. Ne vous inquiétez pas. Je vais retourner en Gascogne. J'ai convoqué parents et amis dans la chapelle pour le service funèbre de notre amour. Il aura sa tombe, une simple croix avec les dates 1663-1667. Je n'aimerai jamais personne comme je vous ai aimé.
Le 18 décembre 1673 a lieu le baptême de la dernière née, Louise Françoise. Sa marraine est Louise de la Vallière, qui quelques jours plus tard entre au Carmel. Le 20 décembre, le Parlement de Paris enregistre l'acte de légitimation des enfants d'Athénaïs et de Louis XIV et prononce la séparation des époux Montespan aux dépens du marquis, accusé de dissipation de biens et de sévices sur son épouse. Athénaïs prend enfin le titre de favorite. Au château de Saint-Germain, elle occupe tout un étage, juste au-dessous de celui de la famille royale. Son salon devient le centre des plaisirs et des arts. Le 18 novembre 1674, elle met au monde une fille, Louise-Marie-Anne, qui est confiée aux bons soins de Françoise Scarron, comme ses frères, Louis-Auguste, 4 ans, et Louis-César, 2 ans, et sa sœur, Louise-Françoise, 18 mois. Françoise Scarron a désormais le titre de gouvernante des enfants naturels du roi. Un soir de décembre 1674, avant le dîner, Athénaïs se rend auprès de ses enfants.
Quelle joie d'avoir mes enfants! J'apprends à les connaître. Auguste est très attaché à son frère César, mais il n'aime pas le fils de la Vallière. Je l'ai entendu le traiter de sac à vin quand ils jouent ensemble. Il ne sait ce que ça signifie, il sait juste que c'est méchant. J'ai tellement espéré pouvoir les aimer. Le seul problème, c'est qu'ils sont trop attachés à Françoise. Tiens, la porte est entrouverte. Ah, Louis parle avec elle. Depuis que Françoise vit à la cour, il a pris goût pour elle.
Certes, l'autorité absolue du père sur l'enfant est celle du souverain sur ses sujets. Elle garantit l'ordre voulu par Dieu. Et qu'on soit père ou qu'on soit roi, on a des devoirs envers Dieu.
Vous insinuez que je ne communie pas assez souvent? Dites votre pensée. Je mène une vie licencieuse, mais je me soucie du salut de mon âme.
Louis,
N'écoutez pas Françoise, elle a la folie de vouloir toujours avoir raison.
Ah, Athénaïs, nous avons besoin de votre avis. Françoise, répétez ce que vous me disiez à propos d'Auguste.
Il faudrait l'emmener en cure, aux eaux de Barège. Son dos part de travers, il en est quasi paralysé. Il y a là-bas une source qui fait des miracles.
Inutile, les meilleurs médecins sont à la cour.
Ça, vous ne voyez pas comme il torture César pour le débarrasser de sa bosse? Et avec quel résultat? Sa santé se fragilise après chaque traitement.
Nous y réfléchirons. Je suis très touché, Françoise, du soin que vous prenez de nos enfants. Vous savez les aimer.
Ne t'avise plus de lui mettre en tête des choses sans m'en parler. C'est moi qui décide pour mes enfants.
Mais tu ne sais pas ce qui est bon pour eux. Tu fais leurs quatre volontés juste pour t'en faire aimer. Il faut les gouverner avec autorité.
Tu ressembles à Caligula. Il voulait que le peuple romain n'ait qu'une tête pour pouvoir l'abattre d'un seul coup. Moi, j'aime que mes enfants soient de belle humeur et chaque enfant corrigé selon son tempérament. Pour l'un, un regard suffit. Pour l'autre, une conversation particulière.
Nous ne serons jamais d'accord. Bien. Je dois aller les coucher.
Non, tu n'iras pas. Les femmes de chambre s'en occupent.
Elles sont trop sur les dents, il faut de la patience. César est long à trouver le sommeil. Auguste a un peu de fièvre à cause des premiers froids. Et Louise-Françoise est grognon. Je vais les coucher, que tu le veuilles ou non.
Tu désobéis? Toi qui n'as que le respect de l'autorité à la bouche?
Tu es enragée contre moi. 10 fois par jour, je voudrais m'en aller. Mais Dieu m'a placée ici pour que le roi mette sa vie en conformité avec le Seigneur. Et que cesse le scandale.
Ah, voilà donc le dessous des cartes. Tu te crois l'instrument de la Providence et espères rompre les liens qui m'unissent au roi. Sors d'ici, avant que je ne dise des choses terribles.
Néanmoins, en reconnaissance des soins qu'elle donne à ses enfants, le roi gratifie Françoise Caron d'une forte somme. Elle achète alors un domaine qui lui donne le titre de Madame de Maintenon. Durant l'hiver 1674, la cour se déplace au château de Versailles, dont les aménagements sont achevés. Athénaïs en devient la véritable souveraine. Elle éblouit la cour, comme ce soir de janvier 1675, où elle paraît dans une robe brodée d'or. Le lendemain matin, Athénaïs longe à cheval le Grand Canal. Plus loin, maçons et terrassiers assainissent les marécages, une tâche où il meurt de paludisme par dizaines. Laissant derrière elle le château dans la brume, Athénaïs galope à travers bois pour rejoindre le roi parti à la chasse.
Il faut que je lui parle. Je boude, j'ironise, mais rien n'y fait. Je suis dans une agitation. À peine a-t-il fait de moi la favorite en titre qu'il... Jamais, jamais je ne serai Louise de la Vallière.
Sans rabatteur et palefrenier, 4 meutes de chiens, 1 messe à Saint-Hubert, et le cerf nous a échappé. Prenons cette allée.
Ce n'est que sable mouvant et marécage par là, les chevaux vont s'embourber.
Descendons de cheval alors. Ah, quand les marais seront comblés, ce sera le plus beau palais d'Europe. Versailles est ma passion.
De face que ce soit la seule.
Une perdrix.
Marie-Élisabeth, elle te passionne aussi? Et la princesse de Württemberg? Elle ne fait que retenir tes regards?
Tes soupçons t'égarent. Tu sais, il est parfois utile de réexaminer les vérités dont nous sommes persuadés.
Je les ai sous les yeux, ces vérités! Tu fais éhontément la cour à mes propres nièces! Tu courtises à découvert cette rousse, je ne sais plus son nom!
La princesse de Soubise. Athénaïs, même au plus fort de ma passion pour toi, j'ai eu des passades. Mais toi seule fais briller mon règne par l'éclat de ton esprit.
Cet esprit? C'est l'esprit héréditaire des Rochechouart de Mortemar. Ce sang que j'ai transmis à tes enfants, la plus ancienne noblesse de France après les Capétiens. Plus ancienne que les Bourbons.
Dieu seul désigne la dynastie des rois de France et il a choisi les Bourbons. La colère te fait perdre ton sang-froid.
C'est vrai. Je ne sais pas garder le milieu entre la sagesse et le ressentiment quand je souffre. Mais ce que je sais, c'est que jamais, tu m'entends, tu ne m'obligeras à partager tes faveurs.
8 mars 1675. Athénaïs quitte Versailles à la nuit tombée. Entrée dans Paris, son carrosse se dirige vers le quartier populaire de Bonne Nouvelle, où demeure Catherine Deshaies, dite La Voisin, célèbre devineresse. Dans les coulisses du grand siècle, catholicisme rigoriste et superstition se côtoient sous le manteau, et l'aristocratie entretient astrologues et guérisseurs qui font floresse. La Voisin consulte dans une cabane au fond de son jardin, à la lueur des bougies, drapé d'un manteau cramoisi brodé d'un aigle d'or. Athénaïs prend place en face d'elle.
Qu'est-ce qui vous amène, Madame de Montespan ? Je sais, on vous aura dit que j'ai appris d'un médecin anglais la technique pour vider les femmes avec une seringue spéciale. Ça vous coûtera 30 sols.
Il ne s'agit pas de cela. Je veux savoir ce que me réserve l'avenir.
Alors je vais vous tirer beaucoup d'argent ? Va encore, t'es folle. J'ai 10 personnes à charge et je pourrais parler.
Sois damnée, la voisin. Toi et tes menaces.
Sûr, je finirai sur le bûcher. En attendant, j'aurai mon compte. Voilà, marquise. Merci. Alors, il y a longtemps que je ne vous ai vue. La dernière fois, vous vouliez anéantir la Lavallière.
Anéantir ? L'éloigner du roi, tout au plus. Écoute, ma faveur diminue à vue d'œil.
Vous voulez que l'amour revienne ? Facile. Deux cœurs de pigeon, je les porte à Saint-Séverin et la belle église sous le calice pendant la messe. Ou un filtre d'amour aphrodisiaque ?
Non. J'ai vu des mauvais signes. Des pies qui jacassaient. Un essaim d'abeilles dans un arbre. Et ce chien qui hurle le soir.
Je vois. J'ai des formules pour conjurer le mauvais œil. Alpha Aglalei. Je vous commande de la part du grand Dieu vivant qui a créé la sainte trinité du paradis.
Tais-toi ! Dis-moi ce qui va arriver.
Les lignes de la main. Une science que Dieu m'a donnée à l'âge de 9 ans.
Tire-moi l'horoscope, plutôt. J'ai lu qu'Agrippine a demandé à l'horoscope si son fils Néron serait empereur. Il a dit qu'il le serait et qu'il tuerait sa mère. Si le pire m'attend, je veux le savoir. Ai-je une rivale sérieuse ?
Un, deux, trois, quatre, cinq. Le tarot en croix, marquise. Votre avenir est là-dessous. Je retourne une carte. Oh, le pendu. Je vois de l'attente. Vous vous sentez en cage, ma belle. Mais ce n'est pas le bon moment pour agir.
Avril 1675. Louis XIV fait face à une coalition des monarchies d'Europe dans la guerre de Hollande, mais aussi à une rébellion qui enflamme les villes de France telle une traînée de poudre. Afin de renforcer l'autorité de la monarchie absolue d'ordre divin, le roi veut donner au catholicisme la première place dans sa politique. Pour Pâques, il fait le carême avec ostentation. Le jeudi saint, tandis qu'il accomplit le rituel du toucher des écrouelles, Athénaïs se présente dans la chapelle de Versailles pour recevoir l'absolution. À sa grande surprise, le prêtre la lui refuse. Une deuxième humiliation ne tarde pas. Le roi fait savoir à la favorite qu'il ne la verra plus en privé. Quelques jours plus tard, il fait dire à Athénaïs qu'il va lui parler en public dans une galerie vitrée du château de Versailles. Toute la cour est massée derrière les vitres.
Il m'humilie à me faire attendre ainsi sous les regards de ces dames qui ricanent en me scrutant de la tête aux pieds. La favorite coupable de péchés si graves qu'on ne peut les absoudre. Et Louis m'abandonne. C'est la peur du diable qui l'éloigne de moi.
Madame ?
Je veux me plaindre, sire, de ce que l'absolution m'ait été refusée.
J'ai soumis votre cas à mon confesseur. Il est catégorique. Votre situation menace mon propre salut et la nation tout entière. L'esprit de sédition a saisi le royaume. L'Europe s'est liguée contre moi.
Je ne vois pas en quoi ces affaires me concernent.
Ne voyez-vous pas que ma conduite impie attire la malédiction sur le royaume ? Je dois me séparer de vous.
Vous cédez aux anathèmes d'un confesseur et pliez à sa loi ? Un prince ne rend de compte qu'à l'univers, devant l'histoire. Louis, comment peux-tu croire qu'en me quittant ?
Tiens bon aux brasures de cette fenêtre. Elle nous dissimulera au regard. C'est l'affaire de quelques jours, Athénaïs. Je pars à la guerre. À mon retour, tout sera comme avant.
Mais tu me mets au pilori devant la cour. Tu m'arraches le cœur.
Oh, ne dis pas ça. Je te demande juste de t'éloigner quelque temps.
Où irai-je ?
À Cligny. Personne n'aura rien à y redire.
Juillet 1675. Athénaïs est seule à Cligny, ce château au fond du parc de Versailles que le roi a fait construire pour elle après avoir légitimé leurs enfants.
Elle passe ses après-midi au jardin.
Qu'aurait été ma vie si j'étais restée auprès du marquis? La cour offrait tant de beauté. Pourquoi le roi m'a-t-il choisi, moi? Quand j'ai soupçonné qu'il avait jeté son dévolu sur moi, j'ai pressé le marquis de partir sur le champ, de regagner nos terres de Gascogne. Montespan n'a rien voulu entendre, il m'a livrée au roi. Et j'ai passé des années à espérer devenir la favorite pour être répudiée aujourd'hui. Que se passera-t-il quand Louis reviendra de la guerre? Oh, il continuera de me rendre visite de loin en loin, tandis qu'à la promenade, il aura à son bras une autre femme, et il faudra faire bon visage. Comme Louise de la Vallière. Ce mélancolique courage qu'elle avait dans la voix le jour où elle m'a dit « Tout se détruit, tout passe, et le cœur le plus tendre ne peut d'un même objet se contenter toujours. »
Madame de Montespan, Heures et malheurs d'une favorite, de Christine Spianti, avec Athénaïs de Montespan, Lison Pennec, Françoise Caron, Lina Alzayed, Louis XIV, Anthony Audoux, Louise de la Vallière, Emma Gamet, la voisin Julie Julien, le marquis de Montespan, Antoine Sastre, bruiteur Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Antoine Espel et Benjamin Vignal, assistant à la réalisation Myriad Izard, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur Inter. Je reprends dans quelques minutes la discussion sur la Montespan, favorite de Louis XIV, avec mon invité, l'historienne Flavie Leroux. Mais d'abord, London May de Bonnie Prince Billy.
Leave it to solitude all along. Only the lonely can be so strong. Never has anyone made such a fuss. Death looks in the window as only death must. Or you will find that with thoughtful action you will rise. Never to suffer, never to die. Maybe we'll always be this way. After our horrific night comes Friday, you may want to stay. Lose yourself in another wild night. On and on and on and on. Need to decide who will win this fight. Devil will say your time's come and gone. Or you will find that things have come to coincide. Now is the time.
Inter. Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Flavie Leroux, quel panier de crabes, on pourrait dire, cette cour de Louis XIV, ce roi adulé de toutes ces femmes qui se jalousent. Est-ce qu'on peut parler d'un harem un peu ?
Alors, c'est un terme que l'on retrouve chez certains contemporains hein, qui, dans leur imaginaire hein, de ce que pouvait être l'Empire ottoman de l'époque, vont reprendre effectivement cette image, notamment appliquée à Madame de Montespan, que certains comme Bussy qualifient de sultane. Et effectivement, ce qui va vraiment marquer les esprits avec Louis XIV, mais c'était déjà le cas pour certains rois comme Henri IV, hein, c'est le fait d'avoir plusieurs maîtresses à la fois. Et donc là, on l'a bien entendu dans le récit, effectivement, Louise de Lavallière et Madame de Montespan, puis Madame de Montespan et Madame de Maintenon, mais certaines ne sont pas citées. Hein. Il y a eu aussi une période où il y avait en plus Mademoiselle de Fontanges. Donc effectivement, tout cela crée tout un tas d'intrigues, sans compter bien évidemment la reine elle-même, son entourage, et enfin les autres femmes qui pourraient éventuellement prétendre à la place. Donc,
est-ce que ça participe de la monarchie absolue telle que la désire Louis XIV? Est-ce qu'il faut être le roi dansant, le roi guerrier et le roi amant, enfin, qui décide, qui a plusieurs femmes en même temps?
Le roi amoureux, en effet, c'est une image, un schéma que l'on retrouve chez un certain nombre de rois de France. Est-elle consciente? C'est difficile hein, de l'établir, mais le fait est que la maîtresse est un instrument politique, c'est indéniable. Hein, au-delà d'être l'objet d'une affection, d'une inclination, elle est un instrument politique, ne serait-ce que parce qu'elle incarne la capacité du roi à donner, la capacité du roi à faire un destin et à établir qui il souhaite. Donc rien qu'à ce niveau, effectivement, elle a un rôle à jouer au niveau symbolique, mais aussi parce que en revêtant les plus belles tenues, les plus beaux bijoux, et en étant elle-même éventuellement la plus belle femme de la cour, elle montre la capacité du roi à s'entourer hein, des plus belles dames de France.
En revenant à la Montespan elle-même, est-ce qu'elle a fait l'objet d'un deal, hein, on pourrait dire, ou d'un marché avec son mari au début, un peu comme c'est évoqué dans la fiction? Est-ce qu'il y a eu un marchandage? Le roi le met à la tête d'une compagnie de cavalerie, il va lui donner le titre de duc en échange de son accord, ou bien simplement de son silence au moins sur l'adultère de sa femme?
Alors dans le cas de Madame de Montespan, c'est assez ambigu. Une chose à savoir, c'est que pour la plupart des maîtresses, on se pose souvent cette question justement du marché préalable. C'est difficile hein, de faire la part de vérité en général. Une chose qui est certaine, à peu près, pour Madame de Montespan, c'est qu'elle a demandé à son mari à quitter la cour à partir du moment où elle s'est aperçue que Louis XIV commençait à la regarder et que son mari lui a refusé ce départ en province. Donc quelque part, en le lui refusant, il savait à quoi il l'exposait. Donc on pourrait effectivement en déduire qu'il attendait une contrepartie. Et que c'est faute d'avoir une contrepartie suffisante qu'il se serait par la suite agacé et aurait fait tous les esclandres qu'on lui connaît.
Est-ce que c'est vrai qu'il aurait mis des cornes sur son carrosse? Est-ce que c'est une légende ou...
Alors
c'est une
les cornes, ça relève vraiment d'une historiographie qui est un petit peu postérieure aux faits. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a vraiment fait tout un tas de scandales, notamment qu'il est allé dans l'appartement d'une des amies de Madame de Montespan pour la violenter, l'agresser, qu'il aurait menacé de vouloir coucher avec sa femme pour lui donner une maladie sexuellement transmissible qu'elle aurait pu ensuite donner à Louis XIV. Voilà. Donc c'est quand même un personnage qui se montre violent à bien des égards, et même plus tard il y a des rumeurs qui circulent d'enlèvement hein, de sa femme. Donc il est quand même haut en couleur, même si les cornes, on n'en est pas certain à 100%.
Et l'adultère, comment est-il puni au XVIIe siècle? La Montespan dit à un moment dans la fiction qu'elle pourrait être éventuellement condamnée à mort si son mari le demandait.
Alors l'adultère, la première
femme,
chose à noter, voilà, c'est qu'il y a une différence notable hein, entre l'adultère commis par un homme et l'adultère commis par une femme. Lorsqu'il s'agit d'un homme, il ne risque quasiment rien. Lorsqu'il s'agit d'une femme, elle risque une poursuite en justice, hein, tout de même, qui l'exposerait à des peines. Alors non pas la mort, hein, on n'irait pas jusque-là, en tout cas pour la haute noblesse, pour ce que je connais. En revanche, elle s'expose quand même au risque d'être enfermée au couvent, au risque de perdre sa dot. Et d'ailleurs, certaines femmes en ont fait les frais à la cour de Louis XIV et ont à peu près tout perdu et ont été enfermés quasiment jusqu'à leur mort hein, pour payer cet adultère. Donc c'est quand même un risque important à prendre pour les femmes qui s'engagent dans ce type de relation extra-conjugale.
Et comment l'Église voit tout ça?
Alors l'Église est relativement tolérante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment pour ce qui concerne le roi de France. Hein. Après tout, c'est quand même lui le maître. si je puis dire, jusque dans une certaine limite. C'est-à-dire que la faveur royale s'exerce toujours dans un cadre de bienséance qui est important à maintenir. Et donc Louis XIV, même s'il entretient des maîtresses, il respecte toujours son épouse, à qui il cède toujours la préséance, etc. Et donc dès lors que ce cadre est maintenu, cette fiction en fait...
certaine hypocrisie.
Voilà,
quoi.
Cette hypocrisie est maintenue, tout va bien. Le problème, c'est lorsque l'adultère, et notamment le double adultère, comme c'est le cas avec Madame de Montespan, c'est-à-dire que les deux amants sont mariés, s'expose aux yeux de tous, et qu'en plus, on demande à prendre l'hostie à Pâques. Et donc là, c'est ce qui va déclencher cette crise de 1675. C'est le moment où on va refuser la communion et la confession à Madame de Montespan.
C'est fou, parce que c'est quand même une femme d'une grande noblesse. Elle vient d'une famille très illustre. Et oui. Même elle vit des humiliations terribles.
Oui, alors on lui en inflige un certain nombre. On lui en attribue beaucoup aussi. Là, on a eu dans le récit l'épisode de Louise de Lavallière, qu'elle traite comme une domestique, le mépris qu'elle a à l'égard de Françoise de Scarron. Bon, tout cela est difficile à démêler, puisqu'on sait qu'elle avait par ailleurs des relations amicales assez fortes avec ses femmes, et notamment avec Françoise de Bigné, et ce jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs.
Françoise de Bigné, qui est Françoise Caron, future madame voilà. de Maintenon.
Mais pour ce qui est des humiliations qu'elle-même subit, c'est intéressant de le souligner, parce qu'en général, on oublie qu'elle-même a subi ce type d'humiliation, et notamment des rivales perpétuel. Louis XIV n'a cessé de lui imposer d'autres femmes. Et puis, il faut aussi quand même prendre en compte l'enchaînement des grossesses, qui est quelque chose d'extrêmement contraignant. Dans son cas, on parle quand même de 8 grossesses quasi successives. Donc, c'est quand même très important.
Au début de ces grossesses, ces enfants qui naissent, donc, ils sont immédiatement envoyés chez une nourrice à Paris, en secret. C'est un secret d'État, ces enfants ?
Alors, dans les premières années, pour ce qui concerne Madame de Montespan, oui. On est dans un contexte un peu particulier, puisque Louis XIV, au moment où naissent les premiers enfants de Madame de Montespan, il a déjà reconnu et légitimé les derniers qu'il a eus de Louise de Lavallière. Donc, il est prêt à assumer cette famille parallèle. Le problème avec Madame de Montespan étant encore et toujours, finalement, son mari, mais pas seulement, aussi les enfants légitimes qu'elle a eus avec ce mari, et qui font que son mariage ne peut être brisé, y compris par l'Église. Donc, elle reste une femme adultère. Quoi qu'il arrive. Et donc ces enfants, dans un premier temps, Louis XIV va les cacher, les faire élever en secret, effectivement, sous la direction de Madame de Maintenon. Et la solution qu'il va trouver pour les reconnaître, vous l'avez cité dans le récit, c'est de les légitimer sans citer le nom de la mère, et donc finalement de se présenter comme leur seul parent.
J'aimerais aussi, Favie Leroux, que vous nous disiez quel a été le rôle véritable de Madame de Montespan dans l'affaire des poisons. Elle a été accusée d'avoir participé à des messes noires, d'avoir commandé des messes noires à la voisine, d'avoir éventuellement sacrifié des bébés pour arriver à ses désirs. Qu'est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui ?
Alors c'est vraiment une question primordiale pour comprendre le personnage de Madame de Montespan, d'autant qu'il a été beaucoup malmené, notamment au cinéma, où on la présente toujours comme ça, nue sur un autel lors d'une messe noire. Alors tout cela relève largement d'un imaginaire, mais qui nous provient en fait des témoignages des personnes accusées lors de l'affaire des poisons. Et donc ces personnes vont viser Madame de Montespan et donc l'accuser des pires maux. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est totalement innocente, ce n'est pas le cas. On est à peu près certain, si on recoupe les témoignages, qu'elle a notamment fait appel au service de devineresses, qu'elle a commandé des poudres d'amour, ce genre de choses, qui finalement sont assez communes à la cour de France. C'est important de le souligner. La reine elle-même, la reine Marie-Thérèse, faisait appel au service de devins pour se faire lire l'avenir. Donc, de manière certaine, pour Madame de Montespan, on peut s'arrêter là.
D'accord. Elle n'aurait pas participé à des messes noires.
On ne peut pas l'établir avec certitude, en tout cas.
La Montespan quitte Versailles en 1691 et elle va mourir en 1707, à 66 ans, loin de Versailles. Louis XIV, lui, mourra 8 ans plus tard. Merci beaucoup, Flavie Leroux. De vous, on peut lire sur le sujet « Les maîtresses du roi » de Henri IV à Louis XIV, édité chez Champvallon en 2020. Et plus récemment, « L'autre famille royale », sortie en 2022 chez Passé Composé. C'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Théo de Lobadère. Cette émission s'intègre dans une nouvelle série, en 7 épisodes, consacrée à Louis XIV. Louis XIV, Ombres et Lumières du Roi Soleil, une série que vous pouvez dès maintenant podcaster. Vous pouvez également vous abonner au podcast D'autant n'emporte l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.
Dimanche prochain, nous partirons en 1925 en Écosse, lorsque Conan Doyle, l'immense auteur de Sherlock Holmes, va prendre la place de son célèbre détective pour enquêter lui-même sur une affaire de crime. 1925, l'affaire Oscar Slater, quand Sherlock Holmes vient en aide à Conan Doyle. C'est dimanche prochain à 21h sur Inter.